Chapitre 13. Peu à peu, la situation était devenue telle à l'hôtel Excelsior que les Aftalions n'osaient plus passer devant le bureau. Dès que le propriétaire les apercevait, il claquait les portes, faisait le simulacre de cracher à terre, adressait à ses locataires, comme s'il ne les voyait pas, des injures. Il leur vouait une telle haine que s'il eût pu les précipiter de leur chambre dans la rue, il l'eût fait. Parfois, ils cachaient leurs clés, et quand Nicolas la réclamait, il la laissait tomber sur le sol, ainsi que par maladresse. Il ne pouvait pourtant chasser les Aftalions, puisque la loi le lui interdisait. Aussi, enrageait-il d'être impuissant et contraint de les supporter, et surtout de perdre le loyer de l'une des 32 chambres de l'hôtel, non que cette somme lui manquât sur le moment, mais parce qu'il serait imposé de faire un bénéfice annuel dépassant d'une 20 000 francs ses possibilités, ce qui le contraignait, de janvier à décembre, à tricher sur tout, à se priver, à majorer la nuit le prix de ses chambres, à inciter les couples de passage à boire du champagne. Les Aftalions, eux, vivaient de plus en plus pauvrement. Ils se nourrissaient à peine, même à la crèmerie où on leur faisait du crédit, tellement ils redoutaient l'addition finale. Au cours de longues scènes de supplication, Nicolas parvenait à arracher de ci, de là, quelques petites sommes d'argent que, parfois, sa mère et lui utilisaient tout à coup à satisfaire un caprice. Le 30 septembre, pourtant, le propriétaire frappa à leur porte. « J'ai prévenu la police. Si demain, à midi, dernier délai, vous n'êtes pas parti, je prends votre frusquin et je le jette par la fenêtre. C'est compris ?» Une fois seuls, les Aftalions, qui, devant le propriétaire, avaient protesté de leur bonne foi, s'affolèrent. Louise avait une peur horrible de la police. Bien que Nicolas s'efforçât de la rassurer, la menace du propriétaire l'avait ébranlée. « Coûte que coûte, il faut partir, dit-elle. Cet homme est capable de tout. » Nicolas courut toute la journée à la recherche d'un logis. Finalement, le hasard fit qu'il eut une petite annonce collée sur un mur. Une vieille dame, était-il écrit à la main, demandait à louer à ménage une chambre au prix de 175 francs par mois, avec facilité de faire la cuisine. L'adresse suivait, 110 rue de la Croix-Nivert. Le nom de la logeuse également, Madame Molinier. Le lendemain, les Aftalions, portant chacun une valise, le propriétaire de l'hôtel Excelsior ayant gardé les malles en paiement de la chambre, se rendirent chez Madame Molinier. C'était une petite vieille toute ratatinée qui avait la taille d'une enfant et qui semblait, à ses gestes timides, à son air inquiet et étonné, n'avoir jamais été, entre-temps, une femme. La veille, Nicolas lui avait juré qu'il réglerait la chambre au mois échu. Cela ne diminuait en rien son amabilité. Elle ne savait que faire pour mettre les Aftalions à leur aise. « Je ne vous connais pas, avait-elle dit, mais j'ai confiance en vous. Je vois que vous n'êtes pas des gens vulgaires. Quand on a l'un et l'autre une bonne éducation, on finit toujours par s'entendre. C'est le peuple seulement qui se chamaille. » Mais la fin octobre arriva sans que les Aftalions eussent trouvé de quoi tenir leur promesse à Madame Molinier. Chaque matin, elle venait supplier Louise de lui verser un petit acompte. Les jours passaient tristement. Depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel Excelsior, les Aftalions attendaient un miracle. Quand ils allaient rendre visite à quelques parents ou amis, ils étaient si embarrassés et si pitoyables qu'on prétextait tout de suite de n'importe quoi pour les quitter. Ils s'en allaient alors comme ils étaient venus. Nicolas n'avait pas été au dernier rendez-vous que lui avait donné Simone. Il la fuyait tant il avait honte de lui-même et de sa situation. Depuis qu'il avait quitté l'hôtel Excelsior, il n'était plus retourné chez elle. Des gens qu'il croisait, Nicolas espérait des paroles impossibles. La fièvre dans laquelle il vivait faisait qu'il s'imaginait que les patients lui disaient « Tiens, jeune homme, voilà 100 francs !» ou « Je te donne autant de francs que tu ramperas de maîtres au cœur de Paris !» ou encore « Ma fortune est à toi si tu sautes du 5e étage dans la rue. » Toutes les suppositions traversaient son esprit. Devant les exercices d'acrobatie qu'on lui proposait, il était pris de vertige. « Marche le long de cette corniche et tu auras 1 000 000 $, » soufflait une voix à son oreille. « Crie assez fort pour que je t'entende à l'autre bout de la ville et je te donne ma villa. » ses propositions dansaient devant ses yeux. Toutes les divagations nées de l'anémie cérébrale bourdonnaient dans son cerveau. Il ne se défendait pas. Cependant qu'il s'imaginait, obéissant à l'une de ses voix, une autre lui disait « Promène-toi tout nu et tu seras riche ». Il errait ainsi des après-midi entières, attentif aux idées incohérentes qui naissaient en lui, cherchant parmi elles celles qu'il eût pu réaliser. Parfois il songeait à sa mère, qui, seule, sans se plaindre, avait mis tout son espoir en lui et l'attendait avec anxiété. Il voyait son regard, qui comprenait avant qu'il parlât. D'autres pensées, issues elles aussi de l'anémie cérébrale, se succédaient alors en son esprit. « J'achèterai une auto. On partira pour le midi. Nous sommes riches. À nous les voyages et la liberté. » Il se plaisait durant de longs moments à se représenter les amis ou parents apprenant sa nouvelle condition, le jalousant, lui souriant, cependant que lui, avec insolence, leur marquerait son mépris. Au milieu du mois de novembre, les Aftalion ne purent plus rester chez Madame Molinier. La vieille femme, qui n'avait pas la force de les chasser, frappait à chaque instant à leur porte et, s'asseyant sur un lit, se mettait à pleurer. Ces scènes se renouvelaient plusieurs fois par jour. La vie était intenable. Profitant d'une petite somme que Louise avait encore réussi à emprunter à son frère, les Aftalion déménagèrent un matin que la logeuse était sortie, laissant sur la table une lettre dans laquelle ils demandaient pardon d'agir ainsi et juraient qu'avant la fin de l'année, ils sauraient récompenser Madame Molinier de sa bonté. Ils louèrent une chambre à la semaine dans un petit hôtel de 2 étages, d'aspect misérable, qui se trouvait rue de la Cavalerie, tout près de l'école militaire. Des manœuvres algériens, des chauffeurs, des ouvriers l'habitaient. Sa façade était noircie par les ans. De la rue, on apercevait son toit oblique de chaumière et peint sur le mur, entre le premier et le dernier étage, hôtel du phare. Dès 8 heures du soir, la sonnette des cinémas de l'avenue de la Motte-Piquet retentissait. Les premiers jours, cette chambre fut tellement hostile aux Aftalion qu'ils regrettèrent celle que Madame Molinier leur avait louée. « On a eu tort, disait Louise. Elle nous aurait certainement encore regardé. C'était une brave femme. » Il en était d'ailleurs toujours ainsi quand elle changeait de logis. À peine avait-elle déménagé que le lieu qu'elle venait de quitter lui apparaissait, sinon idéal, du moins préférable à celui où elle allait vivre. L'hiver approchait. Une immense tristesse, au fond de laquelle perçaient les joies illuminées de Noël, pesait sur la ville. À la fin de l'après-midi, la nuit tombait chaque jour plus vite. On passait d'une saison à l'autre, et comme si le monde se fût senti mal à l'aise en ce mois intermédiaire, il semblait que tout fût fait pour hâter le froid. Nicolas n'avait plus qu'un complet dont le pantalon était si usé qu'il n'osait écarter les jambes. Les manches étaient élimées au point que la doublure à cet endroit flottait librement. Aussi ne sortait-il pas sans les rentrer, si bien que son veston paraissait trop court. Il ne changeait plus de linge. Ses chaussures étaient trouées et, sur les côtés, fendues en 5 ou 6 endroits. Pour se raser, il utilisait une vieille lame de rasoir mécanique et du savon blanc. Quand il avait fini, son visage en feu était écorché et parsemé de touffes blondes. Ses cheveux, qui avaient poussé dans son cou, formaient aux tempes des sortes d'accroche-cœur. Une impression de dégradation et de saleté se dégageait de lui. Pourtant, sa confiance était intacte. Plus que jamais, il rêvait de luxe. Il ne cessait plus, au point que cela en devenait maladif, de faire allusion à des tables d'hôtes, à des parties de tennis, à des promenades en automobile. De retour dans la chambre, à peine meublée et humide de l'hôtel du phare, il disait presque chaque fois « Ce n'est pas un salon chic, ici !» ou bien, s'asseyant sur son lit, « Je m'assois dans un rocking chair. » Ou bien encore, en se mettant à la fenêtre, « Je contemple la mer. » Cela était dit sans ironie. À force d'imaginer des moments heureux, il lui arrivait d'oublier la réalité et de parler comme s'il les vivait. Souvent, en marchant dans la rue, il disait tout à coup à haute voix, « Je vous remercie, ce n'est pas la peine. » Ou « Je vous rejoindrai ce soir, mais pas avant 10 heures. » Ou encore « Vous n'aurez qu'à frapper 3 coups et je vous ouvrirai. » Lorsqu'il croisait des femmes jolies, il rougissait de honte. Il ne traînait plus que dans les quartiers populeux, n'osant s'aventurer ailleurs, de peur de rencontrer quelqu'un qui le connaissait. « Cette fois, c'est la fin !» répétait-il à chaque instant et d'une manière si machinale qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Des solutions de désespéré se présentaient à son esprit. Il voulait s'engager à la Légion étrangère. Sa mère haïssait tellement les militaires français que jamais il ne lui parla de ce projet. Attirer sur lui l'attention du monde par une manifestation, arrêter des passants et leur parler avec tant d'aplomb qu'il serait obligé de l'écouter. « Ce n'est pas possible, pensait-il, qu'il n'y ait pas sur terre une personne qui rêve justement de secourir des gens comme nous. » Il dévisageait les passants dans l'espoir de lire sur leur visage quelque intérêt pour lui. Mais c'était toujours la même indifférence. De ses vagabondages, il revenait si déprimé que la chambre étroite de la rue de la Cavalerie lui apparaissait comme un lieu idéal de repos. Quant à Madame Aftalion, elle était tombée dans un état voisin de l'inconscience. Des journées entières, elle ne sortait pas et, allongée sur son lit, parlait seule ou somnolait. Parfois, elle se levait brusquement, dégageait le centre de la pièce et se mettait à marcher de long en large, le plus vite qu'elle pouvait, si bien que la tête ne tardait pas à lui tourner. Elle s'arrêtait alors et, vacillant légèrement sur ses jambes, appelait de toutes ses forces la chute. Une fois remise, elle recommençait à parcourir la chambre en tous sens, jusqu'à ce que, de nouveau, le vertige l'immobilisât. Ce manège avait beau durer des heures, elle ne perdait pas l'équilibre. La nuit venait. Elle s'étendait sur son lit, désirant toujours quelque mal qu'elle ne se représentait pas, mais qui, elle le devinait, l'eût tiré de cet état misérable. Un soir, après avoir bu pour tout repas plusieurs verres de thé, Nicolas ressortit. Il vivait dans une telle surexcitation que depuis 2 jours, il n'avait ni faim ni sommeil. Par intermittence, des nuages épais cachaient la lune. Il se souvint qu'au cours d'une nuit d'automne semblable, alors qu'il était étudiant, il avait failli dévaliser un homme ivre. C'était si loin dans le passé qu'il ne se rappelait plus exactement ce qui était arrivé. Pourtant, il lui semblait que le portier d'un bar de nuit qui avait volé l'ivrogne avait été arrêté et qu'il avait habité un logement à peine meublé de la vieille ville où, pour quelques francs, il donnait des leçons de tango aux collégiens. Sans qu'il s'expliquât pourquoi, d'autres souvenirs semblables venaient à son esprit. Âgé de 7 ans, il avait dérobé à l'étalage d'un bazar une boîte entière de balles de caoutchouc plein. Il se rappela qu'après, lorsque son père lui grondait et lui eut pris des mains cette boîte pour la rapporter, cet acte lui était apparu si grave et comme sans excuse parce qu'il ne s'était pas contenté d'une seule balle. Pourtant, ses souvenirs et d'autres encore, devant le présent désespéré, lui semblaient baignés dans une douceur infinie. Il suivait une avenue. Un mendiant dormait sur un banc. Il était si déchu, si répugnant dans ses loques, que Nicolas eut un sursaut de peur et de dégoût devant cet homme à qui il lui apparut tout à coup qu'il allait ressembler. Les portes et les fenêtres étaient fermées. Il sentit qu'il était autre dans la nuit profonde, comme si tout ce qu'il y avait en lui de douloureux se fût dispersé dans l'espace. Les sonneries des églises tintaient légèrement dans le ciel. Tout à coup, il lui sembla que le monde entier attendait en 7 minutes quelque événement gigantesque. Cette même impression de soulagement que doit éprouver un assassin le jour de la déclaration d'une guerre parce que son crime disparaît dans la confusion générale, il la ressentit. Nicolas entrait dans le rang. La foule ne songeait plus à le tenir à l'écart. Il participait à la vie de tous. Un instant, la lune parut, légère, dans le ciel lourd de nuages. Elle éclaira la ville d'une lumière si triste qu'il sembla à Nicolas que les hommes ne songeaient plus qu'à s'entraider et que, s'il eût rencontré l'un d'eux, aussi puissant eût-il été, celui-ci lui aurait adressé familièrement la parole. Après cette promenée 1 heure durant, Nicolas revint rue de la Cavalerie. La fenêtre de sa chambre était ouverte. Il sonna longuement. Personne ne l'entendit. Alors il appela sa mère, qui parut aussitôt à la croisée. Comme si subitement il fût sorti de lui-même, il vit distinctement cette scène. Il se trouvait dans la rue, la tête levée. Sa mère, accoudée à la barre d'appui de la fenêtre, le regardait. La servante de l'hôtel n'entendait pas la sonnerie. La rue était déserte. Ce qu'il y avait d'un tout petit peu ridicule en tout cela apparut démesurément grandi à Nicolas. Il en fut meurtri au point de retomber dans un état d'abattement plus grand encore que précédemment. « Qu'est-ce que tu veux, Nicolas ?»«
Je t'appelais. »«
Entre, il est tard. »«
Tout à l'heure, je vais faire un autre petit tour. »
Il s'éloigna. Sa mère resta à la fenêtre jusqu'à ce qu'il eût disparu. L'air était frais. Il prit la rue du Laos, puis une de ces avenues qui traversent le Champ de Mars. Parfois, des gouttes tombaient, mais le vent chassait la pluie. En marchant, il se surprit à dire « Si je me tirais une balle dans la tête !» Il se mit à dialoguer tout seul. « Mais où trouver un revolver ? Arrange-toi. Tu me dis cela, c'est très bien, mais que ferais-tu à ma place ?»«
Je chercherai. »
« Où ?»«
Partout. »
« Tu es un idiot.
Toi aussi. »
Il s'arrêta. Souvent, il lui arrivait de simuler ainsi un véritable dialogue. Cela jetait un peu de clarté sur ses pensées. Mais il se lassait très vite et terminait en divaguant. Il répéta « Tu n'as qu'à te tirer une balle dans la tête. »
« Fais-le, toi. »
« Non, c'est toi. »
Il sourit.
« Tout cela n'est pas très sérieux. » Le côté mélodramatique de sa situation lui était apparu. « Je parle en l'air. Tu crois que je ne le sais pas ?» Il se retourna. « Je suis seul, » dit-il. « Et moi, je n'existe pas, alors ?» Il pressa le pas pour se débarrasser de ses questions et de ses réponses qui s'entrechoquaient en lui. Toutes ses pensées qui lui traversaient l'esprit n'avaient plus aucun lien entre elles. Quand il se demandait à haute voix, sans plus de conviction que s'il se fût frappé, « Que vais-je devenir ?» Ou bien « Comment cela va-t-il finir ?» Il entendait distinctement ce qu'il disait, mais ne comprenait pas. Les mots n'avaient plus de sens pour lui. Une sorte de bourdonnement emplissait son cerveau. Comme quand il avait la fièvre, ses doigts lui semblaient plus gros, ses paupières plus lourdes, ses lèvres plus épaisses. Il ressentait une douleur derrière la tête, à l'endroit même où il y avait cette bosse dont, enfant, il avait eu honte parce qu'elle était soi-disant la bosse du crime. Son pouls battait comme si l'artère était liée. Il lui semblait que le sang en arrivant la gonflait et qu'elle allait éclater. Aux tempes, il éprouvait la même sensation. Là aussi, les artères allaient se rompre. Il s'arrêta. Son front était moite. Il le sécha de sa main lourde, dont la paume, comme pendant les grandes chaleurs, était tachée de plaques blanches. À ce moment, il eut un vertige. Son corps fut imprimé d'un balancement. Il s'appuya contre un mur, puis s'y adossa. Tout tournait autour de lui, mais très lentement, si bien qu'il lui sembla qu'en marchant, il tournerait également. Ainsi que dans les jeux et inventions où l'on est maître d'un mouvement éloigné de soi, il fit un petit geste du doigt pour arrêter cette rotation. Mais comme s'il s'était trompé de manette, elle s'accéléra. Alors, avec l'espoir que tout redeviendrait normal, il appliqua son visage contre la pierre rugueuse du mur.
« Je n'en peux plus, je n'en peux plus !» balbutia-t-il.
Une fraîcheur le baigna. Les endroits où il transpirait se glacèrent tout à coup. Ce contact l'avait ranimé. « Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends plus. » Tout son visage était d'une pâleur égale. « Je vais rentrer, je n'en peux plus. » À peine eut-il sonné que la porte de l'hôtel s'ouvrit comme si la couche de sommeil de la servante se fût progressivement amincie en ces dernières minutes. Madame Astalion dormait. Un peu de la clarté du dehors entrait dans la pièce par les vitres nues. Nicolas se déshabilla à la hâte, sans bruit, joyeux de se séparer de ses hardes. Puis il tira les rideaux, se coucha et s'endormit sur le champ. Mais une demi-heure après, il s'éveilla en sursaut. Il venait de faire un cauchemar effrayant et si long qu'il lui sembla avoir dormi des heures. Il était couché à côté de Simone, avait-il rêvé, et il transpirait tellement qu'elle s'était éveillée. À son tour, il avait ouvert les yeux.
Il faisait nuit noire. Des pieds à la tête, il se sentait mouillé. Aussi loin qu'il tendait le bras, des édredons et des couvertures moites l'environnaient.
« Tu dors ? » demanda-t-elle.
« Oui, et toi ? » ?»«
Moi aussi. »
« Tu n'as pas l'impression d'étouffer ? » ?»«
Non,
et toi ? » ?»«
Moi non plus. »
Ce fut tout. De nouveau, il ferma les yeux. Son corps s'était fait à l'humidité. Il avait la sensation agréable que les draps mouillés épousaient parfaitement son buste. Soudain, Simone lui demanda «
C'est maintenant que tu en finis avec la vie ?»«
Mais non, pas du tout. »«
Si, souviens-toi, tu as dit que tu voulais te tuer. »
Nicolas s'enfonçait de plus en plus dans le lit moelleux, au point d'être recouvert par plus et plus d'édredons.
« Voilà le revolver, » dit Simone.
Nicolas le vit tomber lentement vers lui à travers les oreillers. Il essaya de se défendre, de se débattre, mais il était comme enlisé. Ce n'étaient plus des édredons qui s'accumulaient sur son corps, mais lui qui s'enfonçait de plus en plus. Fou de peur, il tenta de se dresser sur ses jambes. Dans le gouffre où il gesticulait, il tendait parfois la tête afin d'aspirer une bouffée d'air qu'il gardait en lui aussi longtemps qu'il le pouvait. À un moment, comme la respiration lui manquait, il voulut encore dégager sa bouche pour reprendre haleine, mais cette fois, ses efforts furent vains. Ce fut quelques secondes après qu'il s'éveilla avec une sensation d'étouffement si violente que bien que ses yeux eussent été ouverts, il continua à repousser des édredons imaginaires. Pour se dégager entièrement de ce cauchemar, il se leva, marcha de long en large, prit un peu d'eau dans le creux de la main qu'il jeta sur sa poitrine et son visage. Puis il se recoucha. Mais cette fois, il ne put s'endormir. Il ne cessait de se tourner dans le lit étroit. À chaque instant, il se levait pour changer un objet de place. Dans la demi-obscurité à laquelle ses yeux s'étaient habitués, il voyait par exemple sur la table une petite cuiller dans un verre. Tout à coup, il lui apparaissait qu'il ne pourrait s'assoupir tant que cette cuiller demeurerait dans le verre. Il l'ôtait alors, puis se recouchait. Mais à peine allongé, cela recommençait pour autre chose. Finalement, il s'imposa de garder les paupières baissées. Mais il ne tarda pas à s'imaginer que sa mère s'était levée, qu'elle tournait autour de lui, qu'elle se penchait même sur son visage. Il ferma les poings, se crispa, se fit violence pour ne point les lever. Au bout d'un moment, il ne put résister. Madame Aftalion dormait comme avant. Rien n'avait bougé dans la pièce. Il s'adossa à son oreiller. Un peu après l'aube, une voiture s'arrêta devant un estaminet proche. Il entendit un homme frapper violemment du poing contre les volets de bois et crier « Debout là-dedans !» Cette parole, cette voix forte et reposée, lui firent l'effet d'un réconfortant. Il devina tout ce qu'il y avait de bonne humeur et de santé chez cet inconnu. La vie recommençait. Tout était normal. Alors, il osa s'allonger entièrement dans le lit. Quand il entr'ouvrait les yeux, il apercevait chaque fois un peu plus de lumière. Les divagations de la nuit étaient à présent si lointaines qu'il lui semblait qu'elles dataient de plusieurs jours. Nicolas dormit lourdement. Le va-et-vient du matin, il ne le perçut pas. Dans son sommeil, il sentait vaguement que l'on se mouvait autour de lui, que des bruits passaient délibérément devant sa porte. Soudain, dans la paix matinale, une pensée l'éveilla brutalement. Le mur qui se dressait à côté de lui était clair. Le mur qui se dressait à côté de lui était clair. Le réveil sur une chaise marquait 10 heures. En un instant, tout redevint net dans son esprit. « Que faire » pensa-t-il. Il se retourna. Sa mère, déjà habillée, était assise près de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda Nicolas.
« J'attends qu'il soit midi. »«
Et alors ?»«
Je verrai. »
Une expression de stupeur était peinte sur son visage. Elle regardait la rue, la bouche entr'ouverte, le cou tendu, comme s'il s'y passait un événement extraordinaire.
« Qu'est-ce qu'il y a dehors ?»«
Rien !» Elle détourna la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de son fils. « Il est 10 heures, » fit celui-ci.
« Je le sais, j'irai à midi seulement. »«
Où ? » Je veux demander à entrer dans un hôpital. » Il hocha la tête, puis sortit du lit. En quelques minutes, sans se laver, tant il lui répugnait d'endosser des vêtements usés et tachés, « Il n'y a pas de milieu chez moi, » dit-il. « Tout ou rien. » Il fit quelques pas dans la pièce, puis, s'arrêtant devant sa mère, « Tu veux entrer dans un hôpital ?»«
Oui.
Et qu'est-ce que tu feras dans cet hôpital ?»«
On me soignera. » »«
Il faut être malade aussi. » »«
Tu crois que je ne le suis pas ?»
Nicolas s'approcha de sa mère, lui prit une main.
« Allons, maman, tu parles sans savoir. Un hôpital, c'est pour les malades. Au lieu de faire des plans compliqués, dis-moi à qui je pourrais emprunter de l'argent. »
Madame Aftalion se leva, parut un instant désorientée, comme si c'était la première fois qu'elle se trouvait dans cette pièce, puis alluma la lampe à alcool.
« Je vais faire du thé. »
« Et si j'allais voir Monsieur Necker ?»«
Fais ce que tu veux. »
Quand on habitait chez lui, il a toujours été gentil pour nous.
« Je ne sais pas. »
« Tu te souviens bien de lui, tout de même ?»«
Oui. »
« De qui je parle ?»«
Laisse-moi, Nicolas, je t'en supplie. Je suis malade. Tu verras, un jour, quand tu rentreras, tu ne me trouveras plus. »